L'interview du sel, le service d'entraide et de liaison. Une action chrétienne dans un monde en détresse. Selfrance.org.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle sur les actualités du sel. Et je suis aujourd'hui avec Monsieur Passiri Lefournet, qui est directeur régional du programme de transformation de l'Église et de la communauté pour l'Afrique de l'Ouest de Tearfund. Monsieur Passiri, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Alors, donc vous travaillez avec l'organisation Tearfund. Tearfund, c'est une organisation chrétienne à laquelle le sel est très lié, parce que le sel fait partie de la famille des organisations Tearfund dans le monde. Et nous allons parler aujourd'hui de ce qui vous occupe dans votre travail, dans votre ministère, qui est le programme de transformation de l'Église et de la communauté. Alors c'est quelque chose qui est une forme d'initiative et d'action originale que tout le monde ne connaît pas bien et qui a comme caractéristique de s'appuyer sur le potentiel des communautés qui vivent dans la pauvreté, pour répondre à la pauvreté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi s'appuyer sur le potentiel des communautés quand on cherche à lutter contre la pauvreté?
C'est un grand plaisir pour moi d'agir avec la communauté, en fait, pour parler un peu de notre programme de transformation de l'Église et de la communauté. En réalité, c'est une approche qui permet à l'Église de se découvrir et de découvrir son mandat biblique, celui d'aller impacter positivement la société. Et ce programme, quand il révèle l'Église, ça permet à l'Église de commencer à mettre d'abord en œuvre la mission que le Seigneur Jésus lui a confiée, et ensuite, elle va vers la communauté pour marcher avec elle, l'aider à se découvrir, à rêver ensemble, à mobiliser les ressources locales pour changer de manière intégrale et durable leur situation.
Alors, ça veut dire que vous considérez qu'une communauté qui vit dans la pauvreté a des ressources en réalité?
La population ou la communauté est environnée des ressources que Dieu a mises à sa disposition qui malheureusement ne sont pas découvertes. Et ce programme permet à la communauté de se découvrir, découvrir les ressources. Et nous parlons généralement de sept types de ressources. Il y a le capital humain, bien sûr, mais il y a aussi les ressources spirituelles. Nous avons les ressources naturelles, les ressources sociales, les ressources physiques, les ressources économiques et les ressources temps. Et quand la communauté arrive à découvrir cette gamme de ressources, elle se réjouit de les mobiliser, de les utiliser de manière rationnelle, je dirais de manière responsable, pour transformer leur situation.
Est-ce que vous voulez dire que une communauté qui vit dans la pauvreté pourrait s'en sortir elle-même avec ces différents types de ressources, ou est-ce que cela signifie qu'elle doit combiner ses ressources avec des apports extérieurs? Parce qu'en général, lorsque on pense aux situations de pauvreté, on se dit ben, les personnes qui vivent dans la pauvreté ont besoin qu'on leur apporte quelque chose. Et peut-être les personnes qui vivent dans la pauvreté elles-mêmes se disent « j'ai besoin qu'on m'apporte quelque chose ». Comment vous voyez les choses?
Mais vous savez, le programme de la transformation de l'Église et la communauté amène les communautés elles-mêmes d'abord à mobiliser ses propres ressources sans attendre l'apport de l'extérieur. Et quand elles commencent à utiliser ces ressources pour transformer leur situation et en voyant les résultats, ça donne encore envie ou ça encourage les gens à aller davantage de l'avant. Mais maintenant, si Dieu, par sa grâce, envoie les ressources extérieures pour appuyer, tant mieux, auquel cas la communauté n'a pas besoin de s'attendre nécessairement aux ressources extérieures. Mais les ressources extérieures, comme personne ne se suffit à elle-même, c'est pourquoi les ressources extérieures viennent compléter les ressources locales pour amener les gens à faire davantage pour la gloire du Seigneur.
Alors, est-ce que on peut avoir quelques exemples concrets de ce que ça veut dire pour une communauté découvrir ses ressources. Vous pourriez nous donner un exemple d'une communauté qui a découvert qu'elle avait une ressource à laquelle elle ne pensait pas et qui a été capable de l'utiliser d'une manière qui a amélioré et transformé sa situation.
Je vais donner un petit exemple que j'ai vécu. Et personnellement, quand j'ai introduit ce programme dans une petite communauté qui se disait très pauvre et qui pensait que rien ne peut se réaliser. Et finalement, cela amenait d'abord les responsables d'église d'aller vers les responsables de cette communauté. Et le responsable de la communauté a fait appel à tous ces sujets. Ils ont réfléchi ensemble et ils se sont rendus compte que le village n'a pas de l'eau à boire. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire parce que nous avons besoin de l'eau? Ils ont dit, bon, comment est-ce que chacun peut apporter sa contribution? Et alors, ils ont compté le nombre de familles qui existent dans ce village. Et ils ont dit, bon, maintenant, chaque famille doit amener tel montant pour permettre de couvrir les frais entiers de la réalisation de cet ouvrage hydraulique. Et alors, il y a des gens qui ont amené des poulets, il y a des gens qui ont amené des fagots, il y a des gens qui ont amené l'argent en espèces. Et quand ils ont mis tout ça ensemble, en réalité, ils avaient dit qu'ils devaient mobiliser les ressources en 3 mois, mais ils ont fait seulement 27 jours. Et quand ils ont capitalisé ce qui a été mobilisé, ça dépassait déjà largement les frais de l'ouvrage hydraulique. Et c'est ce qui leur a permis de réaliser dans un temps record. Et aujourd'hui, le village est béni avec de l'eau et les problèmes, les maladies liées à l'eau sont réduites dans ce village.
D'accord, donc en fait, pour que ça fonctionne, il y a dû y avoir une sorte de prise de conscience de ce que la communauté possédait et déjà, et elle a pu aller plus loin. Et alors, comment ça, les choses se combinent entre l'apport extérieur et puis la mobilisation des ressources de la communauté? Comment faire en sorte finalement que les ressources extérieures puissent être bien utilisées et ne pas casser cette dynamique d'autonomisation, de prise en charge de la communauté par elle-même? Comment on met bien les choses ensemble?
En fait, le programme de la transformation de l'église de la communauté vient d'abord conscientiser les gens par rapport au potentiel qu'ils ont en eux et aussi comment savoir gérer les ressources que le Seigneur met à leur disposition. Et quand ils commencent à utiliser leurs propres ressources, ils ont déjà appris comment gérer les ressources. Et quand l'apport extérieur arrive, cela s'insère dans le programme, mais il faudrait que les gens eux-mêmes se mettent en marche pour que les ressources extérieures arrivent. De nos jours, on demande aux gens qu'est-ce que vous avez, comme l'exemple de ce qui est dans la Bible, Élisée avec la veuve. Donc, voilà le peu que j'ai, je vais continuer à fonctionner avec. Maintenant, quand quelqu'un vient, il ajoute et au moins tu sais comment déjà gérer, tu ne peux pas gaspiller ce que l'extérieur apporte comme une bénédiction pour vous accompagner à faire davantage par rapport à votre rêve que vous avez fait.
Donc finalement, la base, c'est la mobilisation des ressources de la communauté, c'est la prise de conscience par la communauté de ce qu'elle peut faire, et les choses qui vont en plus, c'est justement en plus pour ce qui dépasse ce que la communauté peut faire.
Tout à fait, et ce qui est important ici, le programme de la mobilisation de l'église de la communauté amène les gens à travailler ensemble. Donc, ils réfléchissent ensemble, ils décident ensemble et ils agissent ensemble quand ils prennent conscience pour dire que nous sommes capables de le faire. Et quand ils font une petite réalisation, ils prennent du temps également pour rendre grâce au Seigneur et s'encourager mutuellement à aller de l'avant. Et c'est ce qui permet une bonne combinaison entre l'apport intérieur et l'apport extérieur pour la transformation de leur situation de manière durable et holistique.
On a parlé d'église et de communauté. Alors la communauté, ça veut dire par exemple le village ou le quartier, ou le voisinage, l'environnement immédiat. Et puis il y a l'église. Donc il y a la transformation de la communauté en général. Et puis il y a un rôle particulier qui est donné à l'église qui est le point de départ et qui est le lieu où le groupe de personnes qui rayonne dans son contexte. Pourquoi insister sur l'Église dans la transformation des situations de pauvreté?
Vous savez, quand nous faisons référence au chapitre 12 du livre de Genèse, quand le Seigneur a demandé à Abraham de quitter son village, de partir, et il lui a dit, tu seras une source de bénédiction. Qu'il va bénir Abraham et que Abraham sera une source de bénédiction. C'est exactement comme ça. L'Église existe dans la communauté pour bénir cette communauté. Et alors, l'Église joue un rôle moteur dans la conscientisation, la mobilisation et pour donner des bons exemples. Il faudrait que l'Église d'abord commence à transformer ou à changer sa situation intérieure pour donner l'exemple à sa communauté immédiate, à son environnement. Et quand les gens voient qu'il y a des transformations qui s'opèrent au sein de l'Église, les membres de l'Église se comportent de manière positive et puis vont commencer à démontrer l'amour de Christ. Et cela attire l'attention des gens. Et quand l'Église va vers la communauté, les deux se donnent la main pour travailler ensemble, pour changer leur situation. Mais je rappelle que l'Église existe dans la communauté pour bénir cette communauté. Parce que les problèmes de la communauté doivent être les problèmes de l'Église.
Alors, pour que nos auditeurs puissent se faire une idée, parce que ce ne sont pas des grandes idées que vous nous dites ici, mais c'est une pratique et une expérience, ce sont des actions et des processus qui sont mis en place depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de l'ampleur de ce dont il s'agit? Ça se passe dans un ou deux pays, ou bien dans des dizaines de pays, sur plusieurs continents? Donnez-nous peut-être quelques ordres de grandeur qui permettront à nos auditeurs de se dire que, ah oui, c'est quelque chose qui existe depuis un moment et qui est déjà en marche.
Vous savez, le programme a commencé au Kenya il y a déjà 23 ans, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de 30 pays en Afrique dans lesquels ce programme marche, mais aussi c'est mis en œuvre en Grande-Bretagne, c'est mis en œuvre au Canada, et j'espère que aussi ce programme peut marcher en France.
Alors, merci beaucoup, Passiri, pour les réponses que vous avez apportées à mes questions et qui ont permis à nos auditeurs de découvrir le travail qui est encouragé, catalysé par Tearfund, qui est cette organisation à laquelle le SEL est relié, puisque le SEL fait partie de la famille Tearfund et qu'il y a des Tearfund dans plusieurs pays du monde et qui, les éléments que vous nous avez donnés nous montrent aussi un certain nombre de choses qui se font dans le monde avec les églises, avec des communautés locales et une manière d'envisager la sortie de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie qui implique pleinement les personnes et les populations concernées. J'espère que cette émission a pu inspirer nos auditeurs et leur donner une idée de ce qui peut se faire et de ce qui se fait déjà dans le monde aujourd'hui. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.
L'interview du SEL, le service d'entraide et de liaison. Une action chrétienne dans un monde en détresse. selfrance.org